Chapitre 5. Une des sept branches. Il y a certains contes dont le héros est en proie aux aventures les plus extravagantes et s'avise lors du dénouement qu'il fut tout simplement le jouet d'un rêve. Raoul, quand il eut retrouvé sa bicyclette derrière le talus où il l'avait enfouie la veille, se demanda subitement s'il n'avait pas été ballotté par une suite de songes tour à tour divertissants, pittoresques, redoutables et, en définitive, fort décevants. L'hypothèse ne l'arrêta guère. La vérité s'attachait à lui par la photographie qu'il avait entre les mains, et plus encore peut-être par le souvenir enivrant du baiser pris aux lèvres de Joséphine Balsamo. Cela, c'était une certitude à laquelle il ne pouvait se soustraire. Pour la première fois, à ce moment, il le constata avec un remords aussitôt chassé, il pensa d'une façon nette à Clarisse Détigue et aux heures délicieuses de la matinée précédente. Mais à l'âge de Raoul, ses ingratitudes et ses contradictions de cœur s'arrangent aisément. Il semble qu'on se dédouble en deux êtres, dont l'un continuera d'aimer dans une sorte d'inconscience où la part de l'avenir est réservée, et dont l'autre se livre avec frénésie à tous les emportements de la passion nouvelle. L'image de Clarisse se dressa, confuse et douloureuse, comme au fond d'une petite chapelle ornée de cierges vacillants, près desquels il irait prier de temps en temps. Mais la comtesse de Cagliostro devenait tout à coup l'unique divinité que l'on adore. Une divinité despotique et jalouse qui ne permettrait pas qu'on lui dérobât la moindre pensée ni le moindre secret. Raoul d'Andrézy, continuons d'appeler ainsi celui qui devait illustrer le nom d'Arsène Lupin, Raoul d'Andrézy n'avait jamais aimé. En fait, le temps lui avait manqué plus encore que l'occasion. Brûlé d'ambition, mais ne sachant pas dans quel domaine et par quels moyens se réaliseraient ses rêves de gloire, de fortune et de puissance, il se dépensait de tous côtés pour être prêt à répondre à l'appel du destin. Intelligence, esprit, volonté, adresse physique, force musculaire, souplesse, endurance, il cultiva tous ses dons jusqu'à l'extrême limite, étonné lui-même de voir que cette limite reculait toujours devant la puissance de ses efforts. Avec cela, il fallait vivre, et il n'avait aucune ressource. Orphelin, seul dans l'existence, sans amis, sans relations, sans métier, il vécut cependant. Comment ? C'était un point sur lequel il n'aurait su donner que des explications insuffisantes, et que lui-même il n'examinait pas de trop près. On vit comme on peut. On fait face à ses besoins et à ses appétits, selon les circonstances. La chance est pour moi. Allons de l'avant. Ce qui doit être sera. Et j'ai idée que ce sera magnifique. C'est alors qu'il croisa sur son chemin Joséphine Balsamo. Tout de suite, il sentit que, pour la conquérir, il mettrait en œuvre tout ce qu'il avait accumulé d'énergie. Et Joséphine Balsamo, pour lui, n'avait rien de commun avec la créature infernale que Beaumagnan avait essayé de dresser devant l'imagination inquiète de ses amis. Toute cette vision sanguinaire, tout cet attirail de crimes et de perfidies, tous ces oripeaux de sorcières, s'évanouissaient comme un cauchemar en face de la jolie photographie où il contemplait les yeux limpides et les lèvres pures de la jeune femme. « Je te retrouverai, » jurait-il en la couvant de baisers. « Et tu m'aimeras comme je t'aime. Et tu seras à moi comme la maîtresse la plus soumise et la plus chérie. Je lirai dans ta vie mystérieuse ainsi que dans un livre ouvert. Ton pouvoir de divination, tes miracles, ton incroyable jeunesse, tout ce qui déconcerte les autres et les effare, autant de procédés ingénieux dont nous rirons ensemble. Tu seras à moi, Joséphine Balsamo. serment dont Raoul sentait lui-même pour l'instant la prétention de la témérité. Au fond, Joséphine Balsamo l'intimidait encore, et il n'était pas loin d'éprouver contre elle une certaine irritation, comme un enfant qui voudrait être légal et qui doit se soumettre à plus fort que lui. Deux jours durant, il se confina dans la petite chambre qu'il occupait au rez-de-chaussée de son auberge et dont la fenêtre donnait sur une cour plantée de pommiers. Journée de méditation et d'attente, et qu'il fit suivre d'un après-midi de promenade à travers la campagne normande, c'est-à-dire au lieu même où il était possible qu'il rencontrât Joséphine Balsamo. Il supposait bien en effet que la jeune femme, toute meurtrie encore par l'horrible épreuve, ne retournerait pas à son logement de Paris. Vivante, il fallait que ceux qui l'avaient tuée la crussent morte. Et d'autre part, aussi bien pour se venger d'eux que pour atteindre avant eux l'objectif qu'ils s'étaient proposé, il ne fallait pas qu'elle s'éloignât du champ de bataille. Le soir de ce troisième jour, il trouva sur la table de sa chambre un bouquet de fleurs d'avril. Pervenche, narcisse, prime vert, coucou. Il questionna l'aubergiste. On n'avait vu personne. « C'est elle !» pensa-t-il en embrassant les fleurs qu'elle venait de cueillir. 4 jours consécutifs, il se posta au fond de la cour, derrière une remise. Lorsqu'un pas résonnait alentour, son cœur battait. Déçu chaque fois, il en éprouvait une réelle douleur. Mais le 4e jour, à 5 heures, entre les arbres et les fourrés qui garnissaient le talus de la cour, il se produisit un froissement d'étoffe. Une robe passa. Raoul fit un mouvement pour s'élancer et aussitôt se contint et domina sa colère. Il reconnaissait Clarisse Détigue. Elle avait à la main un bouquet de fleurs, exactement pareil à l'autre. Elle franchit légèrement l'intervalle qui la séparait du rez-de-chaussée et, tendant le bras par la fenêtre, elle déposa la gerbe. Lorsqu'elle revint sur ses pas, Raoul la vit de face et fut frappé de sa pâleur. Ses joues avaient perdu leur teinte fraîche, et ses yeux cernés révélaient son chagrin et les longues heures de l'insomnie. « Je souffrirai beaucoup pour toi », avait-elle dit, sans prévoir cependant que sa souffrance commencerait si tôt, et que le jour même où elle se donnait à Raoul serait un jour d'adieu et d'inexplicable abandon. Il se souvint de la prédiction et, s'irritant contre elle du mal qu'il lui faisait, furieux d'être trompé dans son espoir et que la porteuse de fleurs fût Clarisse et non point celle qu'il attendait, il la laissa partir. Pourtant, c'est à Clarisse qui détruisait ainsi elle-même sa dernière chance de bonheur, qu'il dut la précieuse indication dont il avait besoin pour s'orienter dans la nuit. 1 heure plus tard, il constatait qu'une lettre était attachée à la barre. « Mon chéri, est-ce fini déjà ? Non, n'est-ce pas ? Je pleure sans raison. Il n'est pas possible que tu en aies déjà assez de ta Clarisse. Mon chéri, ce soir, ils prennent tous le train et ne seront de retour que demain très tard. Tu viendras, n'est-ce pas ? Tu ne me laisseras pas pleurer encore. Viens, mon chéri. » Pauvre ligne désolée. Raoul n'en fut pas attendri. Il pensait au voyage annoncé et se rappelait cette accusation de Beaumagnan.
« Sachant par moi que nous devions bientôt visiter de fond en comble une propriété voisine de Dieppe, elle s'y rendit en hâte. »
N'était-ce pas cela le but de l'expédition ? Et n'y aurait-il pas là, pour Raoul, une occasion de se mêler à la lutte et de tirer des événements tout le parti qu'il comportait ? Le soir même, à 7 heures, habillé comme un pêcheur de la côte, méconnaissable sous la couche d'ocre qui rougissait son visage, il montait dans le même train que le baron Détigue et Oscar de Bento, changeant comme eux 2 fois et descendant à une petite station où il coucha. Le lendemain matin, Dormont, Rolleville et Roux d'Estier venaient chercher leurs deux amis en voiture. Raoul s'élança derrière eux. À une distance de 10 kilomètres, la voiture s'arrêta en vue d'un long manoir délabré, qu'on appelle le château de Gœur. S'approchant de la grille ouverte, Raoul constata que dans le parc grouillait tout un peuple d'ouvriers qui retournaient la terre des allées et des pelouses. Il était 10 heures. Sur le perron, les entrepreneurs reçurent les 5 associés. Raoul entra sans être remarqué, se mêla aux ouvriers et les interrogea. Il apprit ainsi que le château de Gœur venait d'être acheté par le marquis de Rolleville et que les travaux d'aménagement avaient commencé le matin. Raoul entendit un des entrepreneurs qui répondait au baron.
« Oui, monsieur, les instructions sont données. Ce de mes hommes qui trouveront, en fouillant le sol, des pièces de monnaie, des objets de métal, fer, cuivre, etc., ont ordre de les apporter contre récompense. »
Il était évident que tous ces bouleversements n'avaient point d'autre raison que la découverte de quelque chose. Mais la découverte de quoi ? Se demandait Raoul. Il se promena dans le parc, fit le tour du manoir, pénétra dans les caves. À 11h30, il n'avait encore abouti à aucun résultat. Et la nécessité d'agir s'imposait cependant à son esprit avec une force croissante. Tout retard laissait aux autres des chances d'autant plus grandes, et il risquait de se heurter à un fait accompli. À ce moment, le groupe des 5 amis se tenait derrière le manoir, sur une longue esplanade qui dominait le parc. Un petit mur à balustrade la bordait, marqué de place en place par 12 piliers de briques qui servaient de socle à d'anciens vases de pierre, presque tous cassés. Et une équipe d'ouvriers armés de piques se mit à démolir le mur. Raoul les regardait faire, pensivement, les mains dans ses poches, la cigarette aux lèvres, et sans se soucier que sa présence pût paraître anormale en ces lieux. Godefroy d'Étigues roulait du tabac dans une feuille de papier. N'ayant pas d'allumette, il s'approcha de Raoul et lui demanda du feu. Raoul tendit sa cigarette, et pendant que l'autre allumait la sienne, tout un plan s'échafauda en son esprit. Un plan spontané, très simple, dont les moindres détails lui apparaissaient dans leur succession logique. Mais il fallait se hâter. Raoul ôta son béret, ce qui laissa échapper les mèches d'une chevelure soignée, qui n'était certes pas celle d'un matelot. Le baron d'Étigues le regarda avec attention, et, subitement éclairé, fut saisi de colère.
« Encore vous ? Et déguisé ? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manigance ? Et comment avez-vous l'audace de me relancer jusqu'ici ? Je vous ai répondu de la façon la plus catégorique. Un mariage entre ma fille et vous est impossible. »
Raoul lui happa le bras. « Pas de scandale. Nous y perdrions tous les deux. « Amenez-moi vos amis. » Godefroy voulut se rebiffer. « Amenez-moi vos amis. Je viens vous rendre service. Que cherchez-vous ? Un chandelier, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Un chandelier à 7 branches. C'est bien cela. » »« Je connais la cachette. Et plus tard, je vous donnerai d'autres indications qui vous seront utiles pour l'œuvre que vous poursuivez. Alors, nous parlerons de Mademoiselle d'Étigues. Qu'il ne soit pas question d'elle aujourd'hui. Appelez vos amis, vite !» Godefroy hésitait. Mais les promesses et les assurances de Raoul faisaient impression sur lui. Il appela ses amis qui le rejoignirent aussitôt.
« Je connais ce garçon, et d'après lui, on arriverait peut-être à trouver... »
Raoul lui coupa la parole. « Il n'y a pas de peut-être, monsieur. » Je suis du pays. Tout gamin, je jouais dans ce château avec les enfants d'un vieux jardinier qui en était le gardien et qui souvent nous a montré un anneau scellé au mur d'une des caves. « Il y a une cachette, là, » disait-il. « J'y ai vu mettre des anticailles, flambeaux, pendules. » Ces révélations surexcitèrent les amis de Godefroy. Bento objecta rapidement.
« Les caves, nous les avons visitées. »
Ah bien, je vais vous conduire. » On y arrivait par un escalier qui descendait de l'extérieur, au sous-sol. Deux grandes portes ouvraient sur quelques marches, après lesquelles commençait une série de salles voûtées. « La troisième à gauche !» dit Raoul, qui, au cours de ses recherches, avait étudié l'emplacement. « Tenez, celle-ci !» Il les fit entrer tous les cinq dans un caveau obscur où il fallait se baisser.
« On y voit goutte !»
se plaignit Roux d'Estier.
« En effet, mais voilà des allumettes. Et j'ai aperçu un bout de bougie sur les marches de l'escalier. Un instant, j'y cours !»
Il referma la porte du caveau, fit tourner la clé, l'enleva et s'éloigna en criant aux captifs.
« Allumez toujours les sept branches du chandelier! Vous les trouverez sous la dernière dalle, enveloppées soigneusement dans des toiles d'araignée !»
Il n'était pas dehors qu'il entendit le bruit des coups que les cinq amis frappaient furieusement contre la porte. Et il pensa que cette porte, branlante et vermoulue, ne résisterait guère plus que quelques minutes. Mais ce répit lui suffisait. D'un bond, il sauta sur l'esplanade, prit une pioche des mains d'un ouvrier et courut au neuvième pilier dont il fit sauter le vase. Ensuite, il attaqua un chapiteau de ciment, tout fendillé, qui recouvrait les briques et qui tomba aussitôt en morceaux. Dans l'espace que l'agencement des briques laissait inoccupé, il y avait un mélange de terre et de cailloux d'où Raoul put extraire sans peine une tige de métal rongée, qui était bien une branche de ces grands chandeliers liturgiques que l'on voit sur certains autels. Un groupe d'ouvriers faisait cercle autour de lui, et ils s'exclamèrent en voyant l'objet que brandissait Raoul. Pour la première fois depuis le matin, une découverte était effectuée. Peut-être Raoul eût-il gardé son sang-froid, et, en portant la tige de métal, eut-il feint de rejoindre les cinq amis afin de la leur remettre. Mais, précisément, à cette même minute, des cris s'élevèrent à l'angle du manoir, et Rolleville, suivi des autres, surgit en vociférant.
« Oh, voilà,
Envoie-le ! »
Raoul piqua une tête dans le groupe des ouvriers et s'enfuit. C'était absurde, comme toute sa conduite depuis un moment d'ailleurs, car enfin, s'il avait voulu gagner la confiance du baron et de ses amis, il n'aurait pas dû les emprisonner dans une cave, ni leur dérober ce qu'ils cherchaient. Mais Raoul, en réalité, combattait pour Joséphine Balsamo, et n'avait d'autre but que de lui offrir un jour ou l'autre le trophée qu'il venait de conquérir. Il se sauva donc à toutes jambes. Le chemin de la grille principale étant défendu, il longea une pièce d'eau, se débarrassa de deux hommes qui voulaient le saisir, et suivi à 20 mètres de toute une horde d'agresseurs qui hurlaient comme des forcenés, déboucha dans un potager que saignaient de toutes parts des murailles d'une hauteur désespérante.
Ah, zut, je suis bloqué. Oh, ça va être la Lalie, la curée. Oh, quelle chute!
Le potager sur la gauche était dominé par l'église du village, et le cimetière de l'église se continuait à l'intérieur du potager par un tout petit espace clos qui servait jadis de sépulture au châtelain de Guerre. De fortes grilles l'entouraient. Des ifs s'y pressaient. Or, à la seconde même où Raoul dévalait le long de cet enclos, une porte fut entrebâillée. Un bras se tendit et barra la route. Une main saisit la main du jeune homme et Raoul, stupéfait, se vit attiré dans le massif obscur par une femme qui referma aussitôt la porte au nez de ses assaillants. Il devina, plutôt qu'il ne reconnut, Joséphine Balsamo.
« Venez !»
dit-elle en s'enfonçant au milieu des ifs. Une autre porte était ouverte dans le mur et donnait la communication avec le cimetière du village. Au chevet de l'église, une vieille berline démodée, comme on n'en rencontrait déjà plus à cette époque que dans les campagnes, stationnée, attelée de deux petits chevaux maigres et peu soignés. Sur le siège, un cocher à barbe grisonnante, dont le dos très voûté bombé sous une blouse bleue. Raoul et la comtesse s'y engouffrèrent. Personne ne les avait vus. Elle dit au cocher
« Léonard, route des Lunerets et de Doudeville, vivement !»
L'église était à l'extrémité du village. En prenant la route de Luneray, on évitait ainsi l'agglomération des maisons. Une longue côte s'offrait qui montait sur le plateau. Les deux bidets efflanqués l'enlevèrent à une allure de grand trotteur qui grimpe la montée d'un hippodrome. Quant à l'intérieur de cette berline, d'une si mauvaise apparence, il était spacieux, confortable, protégé contre les regards indiscrets par des grillages de bois, et si intime que Raoul tomba à genoux et donna libre cours à son exaltation amoureuse. Il suffoquait de joie. Que la comtesse fût offensée ou non, il estimait que cette seconde rencontre se produisait dans des conditions si particulières et, après la nuit du sauvetage, établissait entre eux des relations qui lui permettraient de brûler quelques étapes et de commencer l'entretien par une déclaration en règle. Il la fit d'un trait et d'une façon allègre qui eût désarmé la plus farouche des femmes.
« Vous, c'est vous ! Oh, quel coup de théâtre ! À l'instant où la meute allait me déchirer, voilà que Joséphine Balsamo jaillit de l'ombre et me sauve à mon tour. Oh, que je suis heureux et combien je vous aime. Oh, je vous aime depuis des années, depuis un siècle. Mais oui, j'ai 100 ans d'amour en moi. Un vieil amour jeune comme vous et beau comme vous êtes belle. Oh, vous êtes si belle. On ne peut pas vous regarder sans être ému. C'est une joie. Et en même temps, on éprouve du désespoir à penser que, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais éteindre tout ce qu'il y a de beauté en vous. L'expression de votre regard, de votre sourire, tout cela restera toujours insaisissable. »
Il frissonna et murmura.
« Oh, vos yeux se sont tournés vers moi. Vous ne m'en voulez donc pas? Vous acceptez que je vous dise mon amour ?»
Elle entr'ouvrit la portière.
« Si je vous priais de descendre, je refuserais. Et si j'appelais les cochers à mon secours, je le tuerais. Et si je descendais moi-même, je continuerais ma déclaration sur la route. Alors, vous avez réponse à tout. Restez, mais assez de folie. Racontez-moi plutôt ce qui vient de vous arriver. » Et pourquoi ces hommes vous poursuivaient ? Oui, je vous raconterai tout, puisque vous ne me repoussez pas, puisque vous acceptez mon amour. Mais je n'accepte rien. Vous m'accablez des déclarations, et vous ne me connaissez même pas. Je ne vous connais pas. Et vous m'avez à peine vu, la nuit, à la clarté d'une lanterne. Et le jour qui précéda cette nuit, je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de vous admirer durant cette abominable séance de la haie des tigres. »
Elle l'observa soudain sérieuse.
« Ah, vous avez assisté. J'étais là, avec une ardeur pleine d'enjouement. J'étais là, et je sais qui vous êtes. Fille de Cagliostro, je vous connais. Bas les masques. Napoléon Ier vous tutoyait. Vous avez trahi Napoléon III. Servi Bismarck et suicidé le brave général Boulanger. Vous prenez des bains dans la fontaine de Jouvence. Vous avez 100 ans. Et je vous aime. »
Elle gardait un pli soucieux qui marquait légèrement son front pur. Et elle répéta.
« Ah, vous étiez là. Je l'ai supposé bien. Les misérables, comme ils m'ont fait souffrir. Et vous avez entendu leur accusation odieuse.
J'ai entendu des choses stupides, et j'ai vu une bande d'énergumènes qui vous haïssent comme on hait tout ce qui est beau. Mais tout cela n'est que démence et absurdité. N'y pensons pas aujourd'hui. Pour moi, je ne veux me souvenir que des miracles charmants qui naissent sous vos pas comme des fleurs. Je veux croire à votre jeunesse éternelle. Je veux croire que vous ne seriez pas morte si je ne vous avais pas sauvée. Je veux croire que mon amour est surnaturel, et que c'est par enchantement que vous êtes sorti tout à l'heure du tronc d'un if. »
Elle hocha la tête, rassérénée.
Pour visiter les jardins de Gœur, j'avais déjà passé par cette ancienne porte dont la clé était sur la serrure, et sachant qu'on devait le fouiller ce matin, j'étais à l'affût.
Miracle, vous dis-je. Et n'en est-ce pas un que ceci? Depuis des semaines et des mois, peut-être davantage, on cherche dans ce parc un chandelier à 7 branches. Et pour le découvrir, en quelques minutes, au milieu de cette foule, et malgré la surveillance de nos adversaires, il m'a suffi de vouloir et de penser au plaisir que vous auriez. » Elle parut stupéfaite.
« Quoi ? Que dites-vous ? Vous auriez découvert ?»
L'objet lui-même, non, mais une des 7 branches du chandelier. La voici. Joséphine Balsamo s'empara de la tige de métal et l'examina fiévreusement. C'était une tige ronde, assez forte, légèrement ondulée et dont le métal disparaissait sous une couche épaisse de vert-de-gris. L'une des extrémités, un peu aplatie, portait sur une de ses faces une grosse pierre violette, arrondie en cabochon.
Oui, oui, aucun doute est possible. La branche a été sciée au ras du socle. Oh, vous ne sauriez croire combien je vous suis reconnaissante. »
Raoul fit en quelques phrases pittoresques le récit de la bataille. La jeune femme n'en revenait pas.
Quelle idée avez-vous eue? Pourquoi cette inspiration de démolir le 9e pilier plutôt qu'un autre? Les hasards?
Nullement. Une certitude. 11 piliers sur 12 étaient construits avant la fin du 17e siècle. Le 9e depuis.
Comment le saviez-vous?
Parce que les briques des 11 autres sont de dimensions abandonnées depuis 200 ans. Et que les briques du numéro 9 sont celles que l'on emploie encore aujourd'hui. Donc, le numéro 9 a été démoli, puis refait. Pourquoi? Sinon pour y cacher cet objet.
Joséphine Balsamo garda un long silence. Puis elle prononça lentement.
C'est extraordinaire. Je n'aurais jamais cru que l'on pût réussir de la sorte. Et si vite, là où nous avions tous échoué. Oui, en effet, voilà un miracle.
Un miracle d'amour. La voiture filait avec une rapidité inconcevable, souvent par des chemins détournés qui évitaient les traversées de villages. Ni les montées ni les descentes ne rebutaient l'ardeur endiablée des 2 petits chevaux maigres. À droite et à gauche, des plaines glissaient et passaient comme des images.
Beaumanéant était là?
Non, heureusement pour lui.
Heureusement?
Sans quoi je l'étranglais. Je déteste ce sombre personnage.
Moins que moi.
Mais vous ne l'avez pas toujours détesté? Dit-il, incapable de contenir sa jalousie.
Mensonge, calomnie. Beaumanian est un imposteur et un déséquilibré, d'un orgueil maladif. C'est parce que j'ai repoussé son amour qu'il a voulu ma mort. Tout cela, je l'ai dit l'autre jour. Il n'a pas protesté. Il ne pouvait pas protester.
Raoul tomba de nouveau à genoux, dans un transport d'enthousiasme.
Ah, oh, les douces paroles! Alors vous ne l'avez jamais aimé? Oh, quelle délivrance! Mais aussi bien était-ce admissible?
Oh, Joséphine Balsamo, c'est prendre d'un Beaumanian.
Écoutez, je ne veux plus vous appeler ainsi.
Bon, Joséphine, ce n'est pas un joli nom.
Josine, voulez-vous? C'est ça. Je vous appellerai Josine, comme vous appelez Napoléon et votre maman Beauharnais. Convenu, n'est-ce pas? Vous êtes Josine, ma Josine.
Du respect, d'abord, dit-elle en souriant de son enfantillage.
Je ne suis pas votre Josine.
Du respect? Mais j'en suis débordant.
Comment? Nous sommes enfermés l'un près de l'autre. Vous êtes sans défense. Et je reste prosterné devant vous comme devant une idole. Et j'ai peur et je tremble. Si vous me donniez votre main à baiser, je n'oserais pas.